France Culture.
France Culture, la fabrique de l'information, François Saltienne.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Fabrique de l'Information, le rendez-vous de France Culture consacré au décryptage du travail journalistique et à l'analyse des récits médiatiques. Guerre en Ukraine, massacre à Gaza, montée des populismes, péril écologique et instabilité politique. Exemple, ces derniers jours, un Premier ministre démissionnaire, parti puis maintenu pour incarner dans le réel un jour sans fin, avec le risque qu'on n'y comprenne plus rien ou que le public ne cherche plus à faire l'effort. Ce flux continu d'informations anxiogène pousse au phénomène d'évitement de l'actualité. 36% des Français déclarent l'éviter parfois ou souvent. Quand celle-ci ne les rattrape pas au milieu de leur fil Instagram entre une recette de cuisine et une photo de piscine. Submersion, surconnexion et une fatigue qui provoque un exode informationnel. La volonté de se replier seul ou en communauté pour aborder le monde autrement. Quelle responsabilité des médias dans ce contexte où le lien avec le public s'affaiblit? Comment redonner le goût de s'informer et sortir du sentiment d'impuissance? Et si le journalisme de solution qu'il conviendra de définir en était une? Comment les rédactions doivent repenser les formats et les approches pour se reconnecter à une audience qui doute? Voilà les grandes questions de cet épisode en ce vendredi 10 octobre, journée mondiale de la santé mentale. Comment informer sans déprimer? Trois invités en pleine forme pour en parler. Et en duplex depuis les studios d'ICI Provence, Paulina Miel, bonjour.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes sociologue des médias et du journalisme, directrice de l'école de journalisme et de communication de l'université Aix-Marseille et autrice de l'ouvrage « Le journalisme de solution » paru aux presses universitaires de Grenoble. En studio depuis Paris, David Medioni, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste indépendant et directeur de l'Observatoire des médias de la Fondation Jean Jaurès qui a récemment publié un rapport sur cette fameuse exode informationnelle. À vos côtés, Juliette Kev, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et directrice de Vert, un média indépendant qui traite de l'actualité au prisme des enjeux écologiques et qui applique en partie des méthodes du journalisme de solution pour lutter contre l'éco-anxiété. Enfin, comme chaque semaine, nous accueillons un membre de la rédaction de Courrier International, notre partenaire, qui veille, sélectionne et traduit le meilleur de la presse étrangère. Cet après-midi, Ingrid Terwatt est au micro. Bonjour Ingrid.
Bonjour François.
Avec une chronique dans le thème de notre émission, dites-nous.
On va partir en Italie dans une communauté de jeunes qui ont décidé de vivre ensemble pendant 3 ans.
Ça fait rêver ça. Vous avez le programme complet de l'épisode 6 de la Fabrique de l'Information. Pensez à vous abonner au podcast sur l'application Radio France, à nous suivre en direct et en images sur la chaîne YouTube de France Culture ou sur son compte TikTok. Nous gardons le contact avec vous et vous pouvez même poser toutes vos questions à nos invités. Joséphine Reinhardt qui prépare l'émission à mes côtés. Reste à votre écoute.
Vous êtes-vous déjà demandé ce qui peut bien se passer dans la tête des autres?
La fatigue, la grosse fatigue face à l'information.
Depuis 20 ans, les mots se multiplient pour décrire notre rapport, à la fois défiant et excessif, à l'information. Sa quantité, indigeste, c'est le mot valise infobésité. Sa qualité, plus ou moins merdique, fait ou vérité alternative, fake news ou bullshit post-vérité.
Aujourd'hui, en fait, nous, nos parents, quand tu leur dis tu peux être, avoir toute l'info que tu veux, tu te dis mais je veux tout savoir ce qui se passe en Inde, aux États-Unis, en Chine.
Alors le doom scrolling, qu'est-ce que c'est? C'est l'acte addictif de faire dérouler des nouvelles désastreuses sur son fil d'actualité et ainsi tomber de son plein gré dans un vortex terrifiant d'infos catastrophiques.
Et c'est comme ça, mes chers auditeurs, que vous tombez dans le piège du doom scrolling, dans les ténèbres du défilement sans fin. Comme vous avez peur de passer à côté du truc dont tout le monde va parler, eh bien vous scrollez. Encore et encore, c'est que le début, d'accord?
D'accord. D'accord.
Crise, guerre, grève, meurtre, accident, j'en peux plus. Ça me stresse, ça me déprime.
Ça me fait mal de le dire, mais on se rend pas compte à quel point la jeunesse souffre aujourd'hui. Parce que ils sont biberonnés aux réseaux sociaux, donc ils sont biberonnés à des choses qui sont fausses. Et malheureusement, leur santé mentale en prend un coup, vraiment.
C'est ce que l'on appelle de la fatigue informationnelle. 53% des Français en souffrent, et même 38% en souffrent beaucoup. C'est un stress informationnel qui est dû à l'abondance d'informations.
N'ayez pas peur, chers auditeurs et auditrices, restez avec nous. On va donc parler de cette fatigue informationnelle qui avait été publiée dans un rapport de la Fondation Jean Jaurès. Vous en êtes le co-auteur, David Médioni, avec Sébastien Boulogne et Ganel Go. Un rapport qui avait fait date à l'époque, donc qui avait conceptualisé cette fatigue informationnelle. 2 ans plus tard, vous parlez maintenant d'exode informationnel. C'est quoi la différence ?
Alors en fait, l'exode informationnel, c'est la conséquence, si j'ose dire, de la fatigue informationnelle qui s'est installée. Il y a 2 ans, 53% de nos concitoyens disaient souffrir de fatigue informationnelle. En novembre 2024, c'était 54%, donc c'était assez stable. Mais ce qu'on a observé dans cette deuxième vague de l'étude fatigue informationnelle de la Fondation Jean Jaurès, c'est que une partie de nos concitoyens, presque 40% d'entre eux, déclarent s'exiler vers d'autres terres informationnelles. Qu'est-ce que sont ces autres terres informationnelles ? Il y a 2 types d'exil. D'abord, le premier exil, c'est cette idée que on va débrancher complètement, on va aller cultiver notre jardin et on va se dire que finalement, le monde informationnel, politique, qui se parle à lui-même, ne nous intéresse plus et ne nous concerne plus. Ça, c'est une première façon de s'exiler. Et la deuxième façon de s'exiler, c'est vers des terres d'information alternatives. Donc, ça peut être des sites d'information indépendants qui donnent autre chose, qui amènent autre chose. Ça peut être des sites d'information de solutions. Et puis, c'est aussi une vérité alternative et des sites conspirationnistes et une volonté de remplacer le réel par une explication beaucoup plus simple et beaucoup plus facile à comprendre.
D'accord, donc on voit bien ces différentes volontés de se couper totalement du réel pour sans doute se ressourcer auprès de ses proches en disant finalement la vie c'est celle que j'essaye d'entreprendre avec les miens et ça va très bien comme ça jusqu'au risque que vous venez d'évoquer d'exode vers une autre manière de concevoir le réel. Et là on sait très bien qu'on est assez proche des thèses conspirationnistes. Pauline Amiel, pour expliquer cette surcharge informationnelle, vous pointez aussi le rôle délétère d'une information qui tourne en boucle et qui se répète d'un média à l'autre.
Oui, c'est vrai que la fatigue informationnelle, elle existe quand même depuis longtemps, ou cette idée d'infobésité, même si on n'avait pas forcément mis ces termes-là, au moins depuis les années 90. Et c'est en même temps que ça a été développé l'information finalement en direct, notamment sur des informations très anxiogènes comme la guerre en Irak à cette époque-là. Et puis ça n'a fait que progresser. Et aujourd'hui, on est particulièrement impacté en France, notamment parce qu'en France, on a quelque chose qui est très puissant, c'est l'information en continu. Alors les télévisions d'information en continu, ça peut être les radios, ça peut être d'autres types de médias qui adoptent ce paradigme de l'information en continu. Et effectivement, ça renforce ce sentiment de surcharge informationnelle, de fatigue et donc cette envie de s'exiler.
Vous évoquiez justement la guerre en Irak. C'est à ce moment-là que France Info, la radio continue du service public, a trouvé aussi justement son public et a couvert cette guerre qui était peut-être une des premières guerres couvertes par une information en continu à la radio en France. David Guignoli, vous voulez faire un petit retour, une réaction rapide ?
C'est exactement ça. C'est ce qu'on a montré avec Guénaël, c'est cette dictature du flux un peu. En fait, la fatigue informationnelle, elle n'est pas récente. Effectivement, elle existe depuis un bout de temps. Mais ce qui est récent, c'est la densité avec laquelle l'information est martelée sur les individus et le flux continu qu'ils subissent et duquel ils n'arrivent plus à s'extraire, en fait. C'est vraiment cette dictature du flux qui entraîne la fatigue informationnelle et qui ensuite conduit à l'exode informationnel ou à d'autres formes de régulation.
Alors, Juliette Keff, on l'entend, cette dictature du flux, donc l'information continue. Puis, quand même, j'aimerais revenir sur cette idée qu'elle tourne en boucle, qu'on a l'impression que c'est un peu un copier-coller, que cette information qu'on va avoir dans un média, on va la retrouver ailleurs. Comment vous faites-vous pour éviter ce copier-coller, qui est un risque que l'on a tous dans les rédactions? On regarde forcément ce que publient les autres, on a envie parfois d'être les premiers ou de le faire parce que les autres le font. Comment vous échappez à ces réflexes-là?
Honnêtement, c'est assez difficile, bien sûr, puisque on est tous embarqués dans le monde journalistique par cette course à l'échafaud qui nous fait on court derrière l'actualité. Nous, on a choisi de développer un format qui est celui de la newsletter. La newsletter, c'est un petit format, un petit journal qui est envoyé chaque jour dans la boîte mail de nos abonnés et qui a un début et une fin. Et en réalité, c'est le contraire de l'actualité en continu, c'est le contraire du flux. Donc ne serait-ce que dans le format, je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement sain à avoir une newsletter d'actualité sur l'écologie. Bien sûr, on a aussi un site internet sur lequel on peut aller retrouver tout un tas d'articles, de reportages et d'enquêtes. Mais le choix même de ce format, pour moi, répond justement à une logique d'avoir un traitement qui sorte de l'actualité immédiate. Et ce qu'on met à la une, justement, de notre newsletter, c'est quelque chose qu'on choisit. C'est pas forcément forcément des dépêches AFP qu'on va pouvoir reprendre et qu'on retrouve dans d'autres médias. C'est aussi de l'actualité que nous, on choisit de mettre à la une. Donc c'est ça aussi qui est très distinctif dans le format et dans le travail qu'on fait à Vert, c'est qu'on va choisir d'apporter nos propres sujets. Par exemple, aujourd'hui, à la une, on a mis un sujet de solution. On a choisi de s'intéresser à la tortue verte, qui est un animal qui était menacé d'extinction il y a quelques années et qui aujourd'hui va mieux, qui a été classé par l'UICN en préoccupation mineure. Et on a choisi d'aborder ce sujet d'actualité, cette publication de l'UICN qui est absolument partout dans l'actualité, mais avec cet angle particulier de comment les scientifiques et les associations ont pu justement lutter contre la menace de disparition de cette tortue.
Donc amener une information positive, c'est-à-dire qu'une information qui ne nous donne pas l'impression qu'on ne peut plus agir. C'est intéressant quand même le format de la newsletter, puisque c'est un vieux format. On a toujours l'impression que dans le monde des médias, il faut se renouveler, repenser les codes et les genres. Et la newsletter, on en recevait beaucoup déjà il y a une vingtaine d'années et ça revient.
Ça revient, et c'est très complémentaire aussi du travail qu'on peut faire sur les réseaux sociaux, qui lui est un travail de flux. Et là, par contre, effectivement, il peut y avoir une forme de course, justement, sur la couverture de l'actualité, pour ne rien manquer aussi dans ce déferlement d'actualité qu'on a, par exemple, sur Instagram ou sur LinkedIn, sur des plateformes sociales comme ça. Par contre, vous avez dit une information positive. Ça n'est pas vraiment une information positive. Et je pense qu'on va largement en parler aujourd'hui. Le journalisme de solution n'est pas nécessairement positif. C'est un journalisme de réponse face aux grands défis contemporains.
Et un journalisme qui cherche, justement, à échapper à ce qu'on appelle le biais de négativité que l'on a tous, c'est-à-dire qu'on est parfois toujours plus intéressé par les trains qui déraillent que par les tortues qui sont sauvées. Qu'est-ce que le biais de négativité ? On écoute.
On passe d'info en info, sans but précis, et on reste absorbé par les nouvelles négatives à cause de ce qu'on appelle le biais de négativité. Ce biais cognitif reflète la propension humaine à accorder plus d'importance aux informations négatives qu'aux informations positives. Le biais de négativité n'est pas la seule chose qui peut expliquer le doomscrolling. Ce comportement compulsif intervient plus favorablement chez des personnes qui ont certaines vulnérabilités. Ces personnes tentent de réguler des émotions négatives comme l'anxiété, la peur ou l'incertitude en restant continuellement informées, même si ce comportement a l'effet opposé. Ils essaient à travers cette activité de collecter toutes les informations négatives et ils peuvent intensifier leur pratique de doomscrolling, en particulier lors des crises, comme on a vu lors du Covid-19. Mais il existe un dernier élément qui peut expliquer ce mécanisme. L'influence des flux d'informations contenus pour capter notre attention dans le cadre de l'économie de l'attention. Les plateformes de réseaux sociaux comme X, Threads ou encore TikTok ne sont pas neutres dans cette histoire. Elles créent un terrain fertile pour l'apparition et le maintien du doomscrolling grâce à leur fil d'actualité infini. Ces fils exploitent notre tendance à ce qu'on appelle l'escompte hyperbolique. C'est un biais cognitif où les individus s'attendent à ce que l'information suivante soit plus gratifiante que l'information précédente, ce qui les incite à continuer de scroller sans fin.
Voici un extrait donc de la série Votre cerveau, disponible sur France Culture, un épisode consacré à l'impact des écrans sur notre cerveau, et c'était Séverine Herrel, la neuropsychologue, qui parlait. Pauline Amiel, on l'entend, ce biais de négativité, on sait qu'il existe et il est encore plus fort du côté des journalistes.
Oui, c'est très intéressant. Il y a une fondation qui s'appelle la fondation Gapminder qui étudie ce biais de négativité depuis 2005, donc avec des résultats qui sont vraiment consistants depuis plus de 20 ans. Et tout le monde peut passer le test, donc je vous invite tous et toutes à passer ce test si ça vous intéresse. Il mesure vraiment le biais de négativité de tout un chacun, et comme il y a des catégories socio-professionnelles, on se rend compte que les journalistes ont un biais de négativité encore plus fort que la moyenne de la population. Ce qui peut expliquer aussi qu'il y a une tendance à s'arrêter ou à regarder davantage les informations plus négatives que ce que la moyenne de la population aurait pu constater.
Voilà, donc les journalistes qui sont évidemment des médiateurs, donc davantage soumis au biais de négativité, donc ça influence forcément leur travail. Dans les propos de Séverine Herrel, David Medioni, on a parlé de doomscrolling, qu'elle a assez bien défini, je pense que tout le monde voit à peu près ce que c'est. Vous évoquez l'hémocratie, qui est en corrélation évidente avec ce flux permanent que l'on trouve sur les réseaux sociaux.
Oui, tout à fait. L'hémocratie, c'est cette idée que finalement, tout est régi par l'émotion et par la façon dont les réseaux sociaux, globalement, traduisent une information. C'est-à-dire qu'il y a une émotion sur les réseaux sociaux, les journalistes qui sont très présents sur les réseaux sociaux se disent qu'il y a peut-être un sujet, traitent cela de façon émotionnelle, et ensuite ça conduit à une réaction en chaîne des différents tenants de la parole publique, politique et autres, et puis une réaction à ces prises de position. Et donc en fait, c'est une forme de cercle vicieux qui se met en place, et où finalement l'émotion règne surtout. Je dis pas que l'émotion est quelque chose de négatif pour finalement faire passer une information, faire passer une idée, faire rendre compte d'un problème. Mais quand c'est le seul outil qu'on a, le seul levier qu'on utilise pour finalement prendre conscience d'une problématique sociale ou politique, ça devient problématique parce que finalement, elle met à distance toute capacité de raisonnement, toute capacité de prise de distance, toute capacité de prise de recul. Ce flux-là dont on parle, et finalement l'émotion, c'est le sentiment du flux.
C'est la matière première, c'est le moteur.
C'est la matière première du flux. Il y a quelque chose qui, moi, m'a sauté au visage quand on a travaillé là-dessus avec Guena Elgo, c'est que finalement, 80% des Français disent « j'ai arrêté de regarder l'information parce que je ne sais pas quand l'événement s'est passé, je ne sais plus le dater dans le temps », et surtout, ils disent « ça me déprime sur la nature humaine et sur l'état même de l'humanité ». Et donc, en fait, cette émotion, qui au départ est quelque chose peut-être de positif, nous amène à quelque chose de profondément négatif et qui crée finalement une crise démocratique qui est issue de la façon dont on s'informe et dont on va chercher l'information.
Et ce qui est intéressant, c'est pas parce qu'on se sent ému qu'on est davantage informé, c'est même l'inverse, c'est-à-dire que l'information impacte l'audience, mais ils restent pas plus informés après.
Oui, ça permet pas de comprendre en fait, c'est-à-dire qu'on a un problème de compréhension des enjeux d'un grand événement, parce que finalement on le voit que par le prisme de l'émotion.
Depuis Marseille, Pauline Amiel veut réagir, et juste après Juliette Keff.
Oui, je suis complètement d'accord. C'est un phénomène qui est étudié depuis plusieurs années, plusieurs décennies même, qui montre qu'il y a un effet de narcose quelque part. Plus on est informé et plus on va être apathique face à ce flot d'informations, à la complexité du monde, et on va se sentir impuissant. Ce qui fait que ça peut avoir aussi des impacts sur les démocraties et les prises de décision démocratiques des citoyens. Ça peut être vraiment lié avec ce découragement finalement, cette apathie et cette tentation qui est de se désintéressé des affaires de la démocratie.
Et là, je renvoie bien sûr aux travaux de la sociologue Eva Illouz, qui a enquêté et creusé sur les corrélations entre la tyrannie de nos émotions et les valeurs démocratiques. Juliette Keff.
Oui, je pense qu'il y a aussi, il faut rappeler que le modèle économique quand même de ces plateformes-là, c'est de vendre du temps d'attention, pour vendre de la publicité. Donc tous les contenus qui sont les plus polarisants vont être ceux qui remontent en réalité dans le flux. Donc pour nous, en tant que producteurs d'informations, il faut faire vraiment attention justement à ne pas forcément rentrer dans ce jeu-là, à savoir de produire une information qui va être de plus en plus polarisante. Par exemple, on le voit très bien sur le thème du changement climatique ou sur le thème de l'écologie de façon générale. Aujourd'hui, les contenus qui ressortent sont des contenus polarisants. Par exemple, on va opposer les chasseurs et les écologistes, on va opposer les agriculteurs et les écologistes. Et ce sont tout un tas de forces derrière qui jouent sur ces clivages. Là, qui sont vraiment aussi dans le théâtre des réseaux sociaux. Je pense qu'en revanche, l'émotion peut être un terrain intéressant. Ça peut aussi être utilisé pour produire des formats qui fonctionnent sur les réseaux sociaux pour nous, pour nos médias. Et je vais en donner un exemple, parce qu'à Vert, on est justement un petit peu spécialisé là-dessus. Le fait d'avoir des formats décalés, drôles, des vidéos qui fonctionnent très bien sur les réseaux sociaux. Je vais donner simplement l'exemple d'un sujet qu'on a fait il y a quelques jours sur l'hexane, donc ce dérivé du pétrole qu'on retrouve dans l'alimentation. On a fait une vidéo qui a dépassé 1,5 million de vues, donc qui a très bien fonctionné sur Instagram, avec simplement la liste de tous les produits qui contenait de l'hexane. Et donc, c'est un contenu qui est à la fois pédagogique, qui était incarné par Gaëtan Gabriel, qui est notre influenceur maison, en quelque sorte, et qui répond à la fois à l'émotion et à un contenu pédagogique. Donc, en réalité, je pense qu'on peut allier les deux, mais il faut bien sûr faire attention à ne pas vouloir rentrer dans ce cercle infini de l'émotion et de faire du clic pour faire du clic, qui est bien sûr un des biais les plus importants de notre profession aujourd'hui.
Là, on le voit bien, l'information là sert à quelque chose de manière directe, c'est-à-dire que l'audience va s'informer et elle repart avec une matière qu'elle peut tout de suite utiliser dans le réel. Elle n'a pas juste été impactée. Puis, un petit mot sur Gaëtan Gabriel, hein, j'encourage bien sûr tous nos auditeurs et auditrices à regarder ses vidéos, qui est une bonne manière de lutter contre l'éco-anxiété. Votre sujet, c'est l'environnement. On sait que l'éco-anxiété, c'est un des facteurs majeurs qui amène à cette fatigue informationnelle et même qui impacte la santé mentale des plus jeunes jeunes et pas que des plus jeunes. Donc l'humour est sans doute une arme. En tout cas, c'est celle que vous utilisez. Vous voyez, même moi, je dis arme. Ça, c'est intéressant aussi, puisqu'on a tous cette tendance en tant que journaliste à utiliser un vocabulaire. C'est la guerre entre TikTok et Instagram. Arme, comment ? Donc j'entends tout ce qu'on dit là, ce sont des bonnes paroles, mais on a cette tendance quand même naturellement à dramatiser les choses. Une question qui nous vient d'un de nos auditeurs qui suit cette émission directement sur YouTube, je vous le rappelle, sur le compte de France Culture. Vous pouvez regarder cette émission. Une question de Raphaël Sergent qui vous a adressé Pauline Amiel. Les rédactions ont-elles des chartes internes pour limiter les effets anxiogènes de leur couverture ?
Pas ma connaissance, mais je sais que c'est un sujet qui préoccupe certaines rédactions. Certaines rédactions, c'est certain. Je crois pas que ce soit intégré dans les chartes. Mais en tout cas, de très nombreux journalistes se posent la question aujourd'hui et ont vraiment cette conscience qu'il peut y avoir un impact sur la santé mentale de leur public. Donc, c'est une question qui est vraiment en cours et je pense qu'elle sera traitée dans les prochaines années par les médias.
David Medioni, puisqu'on parle de santé mentale, est-ce qu'il y a des corrélations qui sont objectivées entre cette santé mentale? Donc ça fait plusieurs années qu'on dit que les gens vont mal. Alors peut-être que pendant un moment donné, il n'y avait pas assez d'études et que la question de la santé mentale était dans un angle mort. En tout cas, ça fait quelques années qu'on en parle et cette journée, 10 octobre aujourd'hui, est une manière de sensibiliser à cette question. Est-ce qu'il y a une corrélation entre les informations anxiogènes et cette santé mentale?
Oui, il y a une corrélation dans le sens où finalement, nous, dans ce qu'on a observé et l'échantillon de Français qu'on a interrogé, ceux qui se déclarent être le plus fatigués par l'information ou le plus ou qui déclarent ne plus s'informer sont ceux qui souffrent le plus de stress, qui souffrent le plus d'anxiété et qui souffrent le plus de déprime, de dépression. Donc il y a vraiment des éléments de santé mentale qui rentrent en ligne de compte. Alors est-ce que c'est le seul facteur? Bien sûr que non, mais en tout cas évidemment que la relation qu'on entretient avec l'information peut avoir des effets sur le stress qu'on ressent, l'anxiété qu'on ressent, voire même la dépression dans laquelle on est déjà plus ou moins personnellement et qui est amplifié par la relation qu'on entretient avec l'information. Ça, c'est des choses qu'on a objectivées avec Guénin Elgo dans l'étude, oui, tout à fait.
Alors, on a cité journalisme de solution, je l'ai cité dans le chapeau de cette émission, Juliette Keff en a parlé. Il est assez méconnu, ce journalisme de solution. Lorsque j'ai dit que c'était positif, j'ai bien été repris, évidemment, parce que l'une des connotations que l'on accole à ce journalisme, c'est un journaliste de bisounours. On peut parfois penser que c'est le journal des bonnes nouvelles, donc il ne serait pas totalement en prise avec le réel. Pauline Amiel, vous avez écrit sur ce journaliste de solution un ouvrage, vous le prodiguez aussi dans vos cours. C'est quoi le journaliste de solution ?
Le journaliste de solution, c'est une méthode professionnelle créée par des journalistes, justement avec cette perspective de lutter contre la tendance négative des journalistes en général et de l'information, et donc qui encourage les journalistes à traiter avec beaucoup de rigueur, et il y a une méthode très précise, les problématiques de société, mais en proposant une solution potentielle pour les résoudre. Et il y a vraiment une méthode assez précise, et je pense que Juliette peut tout à fait préciser, puisqu'elle le pratique.
Ce qu'on appelle une passe décisive, Juliette.
Merci beaucoup, Pauline. Eh bien oui, c'est une méthode qui a été développée notamment par le Réseau international de journalistes de solutions. Un groupe qui a été créé par des journalistes du New York Times à l'origine et qui présente en réalité quatre étapes principales. Donc d'abord, il faut que ce soit une réponse à un problème qui est déjà connu. C'est-à-dire que, par exemple, si vous apportez directement, si vous vous intéressez à un sujet, mais que le problème n'est pas du tout connu, il est absolument inutile de s'intéresser tout de suite à la solution. Donc c'est pour ça que ça n'exclut pas toute l'approche d'enquête sur les problèmes et de révélation aussi d'études de terrain que nous faisons en tant que journalistes. Donc la première étape, la réponse. La deuxième, c'est de fournir des preuves de résultats, que cette solution, elle fonctionne. Donc ça veut dire avoir des documents qui le prouvent, avoir des études qui le montrent.
Des données d'impact, en fait.
Des données d'impact,
que cette solution,
exactement.
C'en est vraiment une.
Ça doit aussi apporter des éclairages. Donc peut-être que cette solution, elle va pouvoir justement être répliquée par ailleurs. Et enfin, il faut toujours aborder aussi la question des limites et des faiblesses de cette solution. Donc à la rédaction de Vert, on a été formé par Sophie Leroland, qui est une ancienne enquêtrice de Cache Investigation et formatrice du Réseau international de journalisme de solutions. Et nous, ça nous permet très concrètement, dans un monde qui est absolument peuplé de greenwashing, de solutions technologiques qui sont vantées par les entreprises, par exemple, de faire le distinguo entre les bonnes et les mauvaises solutions. Je vous donne un exemple. L'année dernière, on a fait toute une série d'enquêtes sur l'eau, les réponses à apporter au problème de la sécheresse. Donc il y avait bien ce problème, la sécheresse, qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien, on a étudié en 15 volets toutes les réponses qui étaient dans le débat démocratique pour y répondre. Donc par exemple, est-ce que le traitement des eaux usées est une bonne ou une mauvaise réponse ? Est-ce que le fait d'aller recycler et extraire de l'eau de mer pour la boire, pour la potabiliser, c'est une bonne réponse? Est-ce que les réponses de géo-ingénierie, est-ce que le fait d'avoir des semences qui sont moins consommatrices d'eau sont des réponses? Vous voyez que là-dessus, on a énormément d'éléments qu'on va pouvoir justement enquêter.
Donc une analyse critique de la solution, c'est là où effectivement ce journalisme est complet, c'est qu'il ne prend pas la solution d'elle-même, il l'analyse et il exerce une capacité de discernement.
Exactement. C'est pour ça qu'il est tout aussi rigoureux quelque part que le reste du journalisme. Et beaucoup de rédactions, bien sûr, font des reportages de solutions ou des enquêtes de solutions, parfois même sans le savoir. Récemment, dans le débat public, il y avait tout ce débat autour de la climatisation, par exemple, cet été. Eh bien, beaucoup de rédactions se sont intéressées au sujet de la climatisation en essayant de décrypter si la climatisation au niveau individuel est une bonne ou une mauvaise réponse, à la fois pour le confort des individus dans les appartements, mais aussi la question plus générale du réchauffement climatique.
Alors, vous dites justement que ce journalisme, il est exigeant, il me paraît même plus exigeant que le journalisme, comment on l'appelle du coup, puisque le journaliste de solution est un journaliste, on va dire, traditionnel, le plus courant. Ça doit coûter plus cher de faire du journalisme de solution, ça demande plus de temps. Et ça, Pauline Amiel, on sait que les médias en manquent toujours, et d'argent et de temps.
Oui, c'est sûr que c'est souvent la première réponse dans les médias des rédacteurs en chef ou des preneurs de décision, c'est de dire bah, c'est super votre journaliste de solution, mais ça nous prend trop de temps, j'ai pas assez de journalistes, j'ai pas assez de temps. Ceci dit, il y a quand même vraiment des bonnes pratiques qui peuvent être utilisées par les journalistes pour avoir une autre vision, apporter un regard décalé ou un angle différent sur leur production, changer peut-être aussi de sources traditionnelles. Le journaliste de solution et le réseau international dont parlait Juliette proposent beaucoup de pistes pour intégrer du journaliste de solution dans son quotidien.
Ça, c'est pour l'international. En France, on peut noter l'association Reporters d'Espoir qui a été créée en 2004 et qui joue un rôle moteur aussi au sein de notre paysage médiatique pour encourager les médias à parler davantage de solutions et donc de perspectives positive, mais attendez, j'ai dit perspective positive, mais critique. David Medioni, dans les solutions justement qui sont apportées pour lutter contre cette fatigue informationnelle, est-ce que le journaliste de solution en est une qui est citée par les sondés ? J'ai l'impression que c'est encore un journaliste assez méconnu.
Oui, c'est un journalisme assez méconnu et nous, en tout cas, dans la mesure qu'on a fait, on n'a pas observé de demande particulière de journalisme de solution. Au contraire, ce qui est apparu finalement dans les solutions, c'est plutôt effectivement la newsletter. Tout à l'heure, on en a parlé, cette idée que finalement, c'est l'information qui vient vers vous.
Plutôt sortir que, du flux.
Ouais, voilà. Sortir du flux, voilà, cette idée vraiment avec un début, un milieu, une fin et de choisir le moment dans lequel on consulte l'information. Donc, il y a vraiment cette idée-là. Parmi les choses qui ont été apportées aussi en termes de médias qui fonctionnent et qui apporte quelque chose à ceux qui sont le moins fatigués, il y a cette idée du 1 d'Éric Fotorino, c'est-à-dire on fait moins de sujets, mais on le fait de manière complète, efficace et avec plusieurs regards, des regards de journalistes, des regards de sociologues, des regards de chercheurs, ainsi de suite. Voilà. Après, le journalisme de solution, il apparaît, mais il apparaît pas comme une demande majeure des Français pour finalement repenser leur relation à l'information.
Juliette Caff, est-ce que ça marche, le journaliste de solution ? Excusez-moi cette question triviale, mais est-ce que par rapport aux chiffres que vous pouvez observer, quand vous publiez justement un article, un reportage qui rentrerait dans ce cadre et dans ce genre-là, est-ce qu'il est plus consulté ou autant consulté que les autres ?
Non, parfois il est plus consulté, ça arrive. Par exemple, on a fait un reportage dans le Tarn-et-Garonne, dans le Lot-et-Garonne, pardon, auprès d'un agriculteur qui produit des noisettes bio et aussi des noisettes sans trop de pesticides, on va dire. Ça, c'était dans le cadre de la loi du plomb. Vous savez, tous les débats qu'il y a eu autour de la réintroduction de l'acétamipride, qui est donc un néonicotinoïde qui est dangereux pour la santé humaine. Eh bien, on est allé voir cet agriculteur parce qu'il avait un parcours intéressant. Il a eu un cancer il y a 10 ans et il a décidé de complètement réorienter justement la façon dont il produit de la nourriture et en l'occurrence, dont il produit des noisettes. Eh bien, cet article-là, par exemple, il a été dans notre top 10 des articles les plus lus de l'année. parce qu'il y a une incarnation, parce qu'il y a justement un personnage qui est fort, qui raconte une histoire, qui est là aussi pour porter son histoire. Donc je pense que le fait que ce soit un journalisme de réponse n'est pas l'unique clé du succès de cet article. Il y a justement cette forte incarnation. Mais on a tout à fait des sujets qui fonctionnent aussi très bien en vidéo sur les réseaux sociaux, qui fonctionnent aussi très bien en article. Donc je pense que le journalisme de solution est en tout cas un des moyens, mais c'est pas le seul, de reconnecter les gens à l'actualité. Et je dirais pour compléter que, en réalité, ça s'inscrit dans tout un champ qui est celui de sortir de notre position surplombante de journaliste. Et d'aller au contraire être beaucoup plus à l'écoute du terrain, de retourner beaucoup plus sur le terrain, d'avoir des reporters. Nous on travaille avec beaucoup de journalistes indépendants, pigistes sur tout le territoire, qui peuvent nous proposer des sujets qui remontent du terrain. Et donc d'arrêter d'avoir ce regard un petit peu surplombant qu'il peut y avoir dans certaines rédactions parisiennes, pour se mettre vraiment à hauteur des gens, comprendre leurs préoccupations. Et ça, vous avez une journaliste qui en parle très bien et de manière vraiment... Je vous invite vraiment à lire son ouvrage qui s'appelle « Malentendu ». C'est la journaliste Nina Facio qui raconte en fait le fait que nous ne savons plus écouter en tant que journaliste et que même on n'apprend pas à écouter. Ce n'est pas une compétence qui est évaluée en école de journalisme. Et donc, peut-être qu'il nous faudrait justement réapprendre à écouter, retourner sur le terrain. En école de journalisme,
on nous apprend quand même à mener des interviews, à faire des entretiens. Donc, c'est quand même l'art de l'écoute.
C'est l'art de l'écoute, mais parfois, on attend des réponses qui sont très cadrées. C'est-à-dire, parfois, vous avez même dans des services d'actualité de grands médias nationaux, des rédacteurs en chef ou des rédactrices en chef qui vont vous dire, t'as besoin de deux témoignages, et limite, on laisse un blanc, l'article est déjà pré-rédigé et on a besoin de telle ou telle citation. Je caricature. Mais en tout cas, apprendre justement à réouvrir son regard et à faire en sorte que les informations nous remontent, de sortir de ce regard surplombant, je pense que c'est un des outils à côté du journalisme de solution qui est très efficace.
Et c'est vrai que ce que vous dites fait partie de la défiance à l'égard des journalistes de notre population. On peut citer le baromètre de la Croix qui chaque année montre que la confiance est en érosion, aussi parce que les gens ne se sentent pas représentés dans les médias. Les médias ne parleraient pas d'eux, de leur vie, de leur quotidien. Et peut-être qu'aujourd'hui, voir les chaînes d'information continue et les autres, bien sûr, tournées en boucle sur la petite cuisine interne gouvernementale, est un exemple aussi du manque peut-être de préoccupation de sujets importants, de sujets qui touchent les gens.
France Culture.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour.
La fabrique de l'information.
La vache, encore ces stupides actualités. Je déteste les actualités.
François Celtiel.
Et nous sommes toujours dans la fabrique de l'information avec David Medioni, qui est le directeur de l'Observatoire des médias de la Fondation Jean Jaurès, journaliste notamment à Conspiracy Watch. Nous sommes avec Juliette Keff, qui est la directrice de Vert, le média indépendant, et Pauline Amiel, depuis les studios d'ICI Provence, qui est directrice de l'école de journalisme et de communication d'Aix-Marseille. Justement, puisqu'on parle d'école de journalisme, Pauline, est-ce que les aspirants journalistes ont envie de faire du journalisme de solution, ou alors ce qu'ils préfèrent peut-être aller sur le front du côté de l'Ukraine, c'était l'objet de notre émission de la semaine dernière. Est-ce que c'est encore valorisé ? Est-ce que c'est assez valorisé de faire du journalisme de solution ?
Ça l'est de plus en plus. Je l'ai constaté sur ces dernières années, au début de mon parcours à l'EJCAM, aucun étudiant ne connaissait le journalisme de solution. Et là, maintenant, chaque année, de plus en plus d'étudiants savent ce que c'est et s'y intéressent. Certains étudiants ont vraiment une volonté d'intégrer le journalisme de solution dans leur pratique. D'autres, pas du tout, et continuent à s'intéresser effectivement à d'autres types de journalisme. Et c'est très bien également. Mais je suis d'accord pour dire avec Juliette, pour dire que c'est vraiment une bonne pratique qui est intéressante à connaître et à intégrer à tout un panel de bonnes pratiques pour restaurer justement cette confiance avec les publics.
Alors Gilles Tallier, qui nous regarde sur YouTube, lui, a un peu de doute. Il nous dit et il craint qu'à l'avenir, les informations obéissent au marché de la demande du bonheur, notamment sur YouTube. Juliette Keff, peut-être une réaction par rapport à cette crainte ?
Bien justement, je pense que on n'a pas été assez clair nous tous ici dans cette émission, puisque le journalisme de solution ne procure pas forcément du bonheur en soi, c'est-à-dire le but n'est pas de provoquer une émotion de satisfaction, voire de contentement, etc. C'est d'apporter une réponse à un problème qui est soulevé. Et donc je pense que c'est même une urgence démocratique aujourd'hui de s'intéresser aux solutions qui sont dans le débat public, en l'occurrence les solutions qu'il faudrait collectivement qu'on prenne pour résoudre la crise climatique, par par exemple, ou l'effondrement de la biodiversité. Donc on a plutôt aussi une urgence justement à prendre à bras-le-corps ce problème. Et vous le savez peut-être, aujourd'hui on parle beaucoup de backlash sur les questions d'écologie. De retour de bâton en bon français, eh bien ce backlash, on le voit qu'il est en réalité surtout politique et médiatique. Il y a notamment un institut très intéressant qui s'appelle Parlons Climat, qui l'a bien montré, et qui montre notamment que cette polarisation médiatique, elle reflète pas forcément l'opinion des gens. C'est-à-dire que les gens sont à 80% en faveur d'une action climatique, par exemple pour ce qui est d'investir dans le transport ferroviaire, de réduire les pesticides ou de limiter la publicité pour les produits les plus polluants. Mais par contre, justement, dans les médias, ça ne se retrouve pas forcément. Donc vous voyez, en fait, on provoque dans les médias traditionnels une forme de clivage qui n'est pas forcément la réalité de ce que vivent les gens au quotidien. Et souvent, les gens sont bien plus engagés quand ils voient d'autres personnes se mobiliser. Donc c'est là aussi notre rôle de journaliste qui est très important, et ça c'est un volet dont on insiste énormément à Vert, c'est de montrer la diversité des mobilisations sur l'écologie. Les mobilisations sur l'écologie, ça n'est pas seulement les luttes locales, les ZAD ou des mobilisations radicales. C'est aussi des cantines qui passent au bio sous la pression des parents d'élèves qui se sont mobilisés pour la santé de leurs enfants. C'est aussi des chasseurs qui se mobilisent face à la maladie qui décide des oiseaux en Loire-Atlantique, ou des communes qui font tout pour aller vers une transition écologique. Donc voilà, de montrer la diversité des acteurs, de montrer la diversité des points de vue et des réponses, je pense que justement ça peut réussir à faire en sorte que la société transitionne dans sa globalité.
Il y a un vrai lien, on le sent, entre les médias qui sont pas uniquement dans un simple rôle d'informer, mais aussi de provoquer l'action et l'engagement. Il y a quelques semaines, j'ai fait une chronique dans la matinale de France Culture par rapport à l'opération de Street Press, qui donc un média indépendant, qui avait fait une cartographie pour expliquer ce qui est pour eux un péril de la montée de l'extrême droite sur le territoire français. Et lorsque les gens s'abonnaient pour mieux comprendre ce qui se passait dans leur ville, dans leur village, ils avaient accès à de l'information locale. Et assez vite, ils pouvaient se connecter avec d'autres gens qui partageaient les mêmes préoccupations en étant en lien avec des associations locales, hein, Greenpeace local et autres associations. Ça, c'est intéressant aussi de revoir comment le média, qui a pour nature de préserver le lien aussi, de faire société, au-delà de sa mission d'informer, va sur le terrain et crée du commun, David Medioni.
Ouais, moi, c'est ce que ça m'inspire, c'est que finalement, c'est sortir d'une logique d'audience pour aller vers une logique de public. C'est-à-dire arrêter de vouloir parler au plus grand nombre, indéterminé, inconnu, avec lequel on n'a aucun lien réel, pour aller vers un public avec lequel on partage des valeurs, on partage des envies d'action. Quand Mediapart s'est créé, on peut penser ce qu'on veut de Mediapart, mais il y a vraiment cette idée de modifier la perception qu'on pouvait avoir du journalisme d'investigation. Street Press, ce que fait Street Press, là, c'est pareil. Quand Hebdo avait voulu se lancer, cet hebdomadaire avait voulu se lancer, ils avaient été dans différentes villes de France, ils avaient créé des conférences, ils avaient discuté avec leur public. La Croix a lancé récemment une initiative pour finalement permettre à des gens qui sont pas d'accord entre eux de se rencontrer avec l'aide d'un médiateur et de discuter. Donc il y a vraiment cette idée de retrouver la logique du public et sortir de la logique de l'audience qui est finalement celle des médias sociaux qui sont dans la logique de l'attention, dans la logique de l'audience et dans la logique de toujours plus. En fait, peut-être que d'avoir moins de d'auditeurs, de téléspectateurs, ainsi de suite, c'est pas forcément une mauvaise chose, en tout cas au départ, pour repenser son offre éditoriale et puis pour finalement renouer le lien avec le public. Je crois vraiment à cette idée qui peut paraître un petit peu contre-intuitive au départ.
Pauline Amiel, une réaction justement entre cette logique de l'audience, non plus la course à l'audience, mais la recherche justement du public.
Oui, complètement d'accord avec David. C'est aussi le Reuters Institute qui propose chaque année une analyse globale des médias qui l'explique qu'il y a une tendance, que les médias devraient davantage se tourner vers une logique de public pour justement ne pas saturer non plus d'informations et surcharger la fatigue informationnelle. Parce qu'en jouant cette logique des plateformes sociales, de relance en permanence de tweets, de messages court, il y a vraiment cette surcharge informationnelle. Tandis qu'en allant davantage vers une logique de public, on va peut-être aussi donner plus d'espace pour réfléchir, plus d'espace pour prendre le temps et donc mieux lutter, on va dire, contre cette surcharge informationnelle.
Juliette Keff, le public, il a aussi une importance chez Vert puisqu'il participe à la ligne éditoriale. Ça aussi, c'est une manière d'impliquer son public dans le choix des sujets.
fait, je pense qu'à l'origine, Vert a vraiment voulu revenir justement à ce mot de média. Être un média, c'est être le lien entre un public et une information. Et donc, c'était notre rôle de journaliste d'accompagner, d'outiller notre public et donc d'être au contact du public. Donc, nous avons créé le Club de Vert. Le Club de Vert, ce sont les soutiens mensuels, donc les donatrices et les donateurs qui nous soutiennent au quotidien, qui nous financent. Donc, il y a plus de 12 000 personnes quand même qui nous financent chaque mois et qui permettent de faire vivre notre équipe de 15 personnes tout de même. Et on les implique en fait de plein de façons différentes. Donc déjà, on fait pas mal d'événements physiques. Donc c'est-à-dire, on se retrouve dans des salles un peu à l'ancienne. Hein, on se retrouve dans des salles, on discute, on crée et c'est pas seulement des tables rondes qui sont descendantes, mais il y a toujours des ateliers justement avec les publics pour savoir eh bien ce qu'ils pensent de Vert, ce qu'ils aimeraient bien, quel sujet ils aimeraient bien qu'on traite, comment est-ce qu'ils aimeraient bien qu'on traite. Donc on est dans une discussion et dans une intégration vraiment qui est très importante. Et une fois par an aussi, on les fait venir pour certains en conférence de rédaction. Donc ça, c'est un moment aussi qui est assez fort, où on les invite en fait dans la discussion même, dans la création du journal. Et puis on les consulte aussi très régulièrement au travers de courriers, donc encore des newsletters qui leur sont adressés pour les donateurs uniquement, et qui nous permettent en réalité de les consulter sur plein de sujets différents. Par exemple, quel est le thème de la prochaine chronique qu'on va faire, où là on lance un podcast début novembre, et bien ils ont pu contribuer au choix du nom et de la thématique. Donc c'est hyper intéressant en fait ce travail justement de co-construction de la ligne éditoriale, et pour nous je pense que c'est vraiment revenir à l'approche servicielle que doivent avoir les médias. On est au service de notre public et non pas donneur de leçons.
Donc vous faites pas comme la Convention citoyenne, c'est-à-dire que vous consultez pas les gens dans un premier temps et vous n'appliquez pas derrière les recommandations, vous les appliquez vraiment.
Alors nous on les applique, on pourrait même on les applique, bien sûr on reste maître et maîtresse de notre ligne éditoriale évidemment, mais en tout cas c'est toujours très intéressant d'avoir ce lien avec eux, et en plus ils nous font toujours beaucoup rire, et l'humour chez Vert c'est absolument clé.
Voilà, des liens qui font du bien. Tiens, ça tombe bien justement, c'est l'objet du hors-série de Courrier International. Ces liens, ces médias créateurs de liens. Le lien, c'est aussi ce qui unit la fabrique de l'information sur France Culture avec justement Courrier International. Ingrid, ça va être à vous.
France Culture, la fabrique de l'information.
Et direction l'Italie, où un reportage de l'Espresso, repris donc par Courrier, explore une expérience singulière, une communauté de jeunes qui choisissent de vivre autrement.
Oui, direction l'Italie donc, dans une villa du XVIIIe siècle à 40 km au nord de Milan, où 8 Italiens d'une trentaine d'années ont décidé de partager leur quotidien, leurs repas, leurs doutes. C'est une manière de résister à ce que l'Espresso appelle l'ultra-moderne solitude. La demeure est entourée de cèdres et de serres oubliées. Il est devenu le théâtre d'une vie collective baptisée Ephraim. Chacun peut y séjourner 3 ans et Gio, l'un des fondateurs, parle d'une communauté provisoire. Autour d'elle gravitent d'autres communautés italiennes, nées dans les années 1970, souvent dans le sillage des mouvements catholiques sociaux ou de la contestation post-68arde. Sylvia, une résidente, dit, je la cite, « Vivre avec les autres, c'est un apprentissage de mes limites. » Et la journaliste en tire une leçon plus large. « La vie communautaire, c'est une école viscérale de la démocratie », écrit-elle. « Une démocratie qui ne passe pas par les urnes, mais par les gestes. Partager un plat, écouter, céder sa place. »
Et ce n'est pas tout à fait un hasard si ce texte nous vient de l'hebdomadaire italien L'Espresso.
Vous avez raison, L'Espresso n'est pas un magazine comme les autres. Fondé en 1955, il incarne la grande tradition du journalisme d'investigation italien, celle qui a su affronter la corruption, les dérives du pouvoir et défendre une presse libre au cœur d'un paysage médiatique souvent soumis aux intérêts économiques. Héritier de la gauche intellectuelle et critique, il conserve un goût marqué pour le terrain, pour les récits de vie, pour les formes modestes du collectif, et reste l'un des rares hebdomadaires à mêler la rigueur du reportage à une écriture littéraire. Et c'est précisément ce ton qu'on retrouve sous la plume de Gaia Manzini, l'autrice de ce texte, qui est journaliste, mais qui est aussi une figure montante de la littérature italienne. Romancière, scénariste, chroniqueuse, elle appartient à cette génération d'écrivaines qui refuse de séparer l'intime du politique. Son regard, à la fois littéraire et social, donne au reportage sa profondeur, parce qu'elle n'enquête pas, elle écoute. Et ce regard trouve aujourd'hui un écho plus large. En France, Courrier International a traduit ce texte dans son dernier hors-série, vous le disiez, intitulé « Les liens qui nous font du bien ». Alors ce hors-série rassemble des articles venus du monde entier où l'on interroge la manière dont les individus cherchent à recréer du lien malgré la distance, malgré la crise ou malgré la guerre. Du Japon à l'Argentine, du Kenya à la Norvège, une même génération se dresse. Celle de jeunes femmes et hommes qui refusent la résignation et qui s'obstinent à trouver de l'espoir, non pas dans les institutions nécessairement, mais dans la chaleur des rapports humains. Ils inventent d'autres formes de solidarité, locales, numériques, familiales, souvent précaires, parfois dérisoires, mais profondément vitales.
Et ce que nous disent ces jeunes Italiens, c'est qu'on peut oser et que le bonheur peut être contagieux.
Oui, Giovanni, 26 ans, affirme en effet que le bonheur arrive souvent par contagion. Et voilà qu'on reparle donc de contagion. On n'est plus dans les histoires de virus, mais dans les histoires de liens. Le texte ne prononce jamais le mot thérapie. Et pourtant, tout y parle de santé mentale. Le reportage de l'Espresso ne commente pas, il montre. Il laisse les voix exister dans leur humanité fragile, sans filtre, sans jargon. Et c'est dans un espace médiatique saturé d'images et de chiffres, ce type de journalisme soigne en proposant autre chose, un regard patient, presque artisanal, sur les manières de tenir ensemble. En racontant les gestes du collectif, cet article raconte déjà un soulagement possible du mal-être contemporain, celui de se savoir quelque part relié à d'autres. Alors dans le jardin de la Villa Restelli, il y a une poule aux pattes emplumées qui picore au pied d'une statue moussue et Giovanni qui rit. Il dit « on a le plus beau poulailler du monde ». C'est pas une utopie, c'est juste une maison où on apprend à être moins seul. Et si, comme il le dit, le bonheur arrive souvent par contagion, alors ce reportage aussi peut-être nous contamine. Car à force de raconter le lien, le journalisme finit parfois, peut-être aussi, par en créer. Et dans sa montre de fracture, c'est un geste très politique.
Merci beaucoup Ingrid pour ce voyage en Italie. Chez Courrier International, vous suivez évidemment cette émission depuis le début. Comment vous abordez à la fois cette notion de fatigue informationnelle que vous pouvez peut-être même ressentir à travers tous les articles que vous traduisez à travers le monde, et vous en tant que journaliste, en tant que membre de cette rédaction, comment vous essayez de lutter contre cette fatigue-là ?
Alors bien sûr qu'on la ressent, puisque on s'amuse à dire qu'on est la plus grande rédaction du monde, puisque on reprend des informations parues dans la presse de tous les pays. Donc bien sûr qu'on la ressent, mais on est à la fois témoin et acteur et actrice de l'information, puisqu'on a aussi la possibilité de transmettre quelque chose, de faire ce lien. Et en moins de 2 ans, justement, on a consacré 5 numéros à des sujets qui font lien et qui marchent très bien, qui intéressent le public. Par exemple, lire pour aller mieux, ce qui nous lie, mieux vivre en ville, pourquoi court-on, et les amis pour la vie. Donc des grands sujets de société comme ça sur on résume en français avec une expression pas très jolie, de vivre ensemble. Mais au fond, c'est ça la question, c'est comment on fait lien, comment on fait société et ce qui nous fait aller ensemble mieux. Et dans le hors-série que vous montriez tout à l'heure, on a publié un article qui est très intéressant de la Süddeutsche Zeitung, où une journaliste et écrivaine d'origine turque, qui est allemande mais d'origine turque, propose 2 façons d'échapper à cette tendance qu'on a de fuir ou d'éviter l'actu anxiogène. Alors, la première solution, c'est ce qu'elle appelle une philanthropie radicale. C'est-à-dire une solidarité, mais qui existe en acte, pas juste en bonne parole, c'est pas du préchi-préchat de réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment ouvrir une porte, aider quelqu'un, consoler quelqu'un qui va mal, aider quelqu'un. Et puis, ça
m'évoque
très
juste,
individuel.
Le prochain ouvrage de Pablo Servigne, qui parle justement de la force, de la puissance du lien, de la puissance de l'amitié, l'amitié comme ressource.
Tout à fait. Et donc, il s'agit d'actes individuels, personnels, mais il y a aussi quelque chose de plus collectif, une façon d'être ensemble, de manifester. Elle cite les grandes manifestations en Allemagne contre l'extrême droite. Être ensemble, à l'unisson, manifester, faire un cordon sanitaire ou un barrage, si on veut. Manifester contre, bien sûr, mais manifester aussi pour. Et j'en viens à son deuxième point, qui est très important, et qui nous concerne, nous tous, en tant que journalistes, c'est proposer d'autres récits. Alors, elle dit que, d'une part, il est très important... évidemment, de démonter les mensonges qui pullulent dans toute la propagande sur le récit glorieux du passé, ah, c'était mieux avant, etc. Souvent des tissus de mensonges. Dans un temps, il faut faire ça, mais dans un autre temps, il faut proposer d'autres récits tournés vers l'avenir. Des récits plus optimistes, des récits qui proposent quelque chose, qui nous font vivre ensemble. Et c'est pas un hasard, d'ailleurs, si beaucoup des articles que nous republions dans ce hors-série sont écrits par des romanciers, des romancières.
Ça, c'est le besoin effectivement des artistes, puisqu'on parle beaucoup de la panne des imaginaires. Et donc, on attend, peut-être qu'on attend même un peu trop de ces artistes pour qu'ils nous montrent une voie et qu'ils nous proposent un récit. Il y a juste une de vos phrases, votre phrase, Ingrid, enfin plutôt celle de la journaliste. Vous dites, elle tire une leçon, la vie communautaire, c'est une école viscérale de la démocratie. David Medioni, on voit que la frontière est mince, parce que finalement, quand vous parlez d'exode, c'est l'Europe lie. Cet exode, il peut être une menace pour la démocratie. Et en même temps, là, cette phrase dit l'inverse. C'est assez complexe de comprendre que former une communauté, ça peut être une manière de retisser des liens, et ça peut aussi être une manière d'être replié un peu trop les uns avec les autres, sans faire justement société.
Oui, complètement. C'est le grand paradoxe du lien et de la façon dont on crée un lien et dont on décide finalement de s'extraire de ce lien. Ce que ça m'inspire aussi, c'est cette idée que finalement... qu'est-ce que c'est que l'information, quoi? Qu'est-ce que c'est que l'information et qu'est-ce qu'on recherche à travers l'information? Est-ce qu'on recherche la volonté de mieux comprendre le monde? Est-ce qu'on recherche la volonté de comprendre les coulisses des turpitudes des gouvernants? Qu'est-ce qu'on recherche dans l'information? Ça, c'est une réponse que chacun peut avoir, mais que globalement, on peut réfléchir, nous, en tant que journaliste. Et pour sortir du flux, cette idée d'extraire du flux, pour permettre finalement de renouer le lien dont vous parliez, il y a cette idée, à mon sens, de reborner un peu nos contenus, c'est-à-dire sortir d'une logique du flux pour aller vers une logique de programmation avec un début, un milieu, une fin, et avec cette idée que finalement tout ça n'est pas un flux inarrêtable sur lequel on n'a plus aucune maîtrise. Moi, ce qui m'interpelle fortement, c'est cette idée que on n'a jamais eu collectivement autant accès à la connaissance encyclopédique, mais aussi à la connaissance de l'information, autant de sources d'information, et pourtant tout ce qu'on a mesuré nous et d'autres aussi, démontrent que finalement plus personne ne comprend rien à rien. Et donc qu'on a baissé au niveau économique, on a baissé au niveau de connaissances économiques et ainsi de suite. Donc finalement, c'est que le trop-plein ne nous permet pas de relationner avec l'information et donc avec les médias de manière apaisée et sereine.
On sent presque un petit peu, pas votre mal-être, David Medioni, je n'irai pas jusque-là, mais cette fatigue informationnelle, on la ressent aussi en tant que journaliste, Juliette Keff. Est-ce que vous l'avez ressenti peut-être dans vos expériences précédentes, ou est-ce que vous luttez contre celle-ci? Parce qu'on est tous, nous, on est quelque part les premiers médiateurs, donc on est confrontés à cette actualité, à ce flux en permanence. Alors, on peut parfois y mettre un peu de distance parce que notre métier, mais il peut aussi nous ensevelir.
Oui, je pense que c'est un risque, bien sûr, dans notre métier, puisqu'on est des consommateurs et des consommatrices d'informations, nous aussi, en tant que journalistes. On fait ce qu'on appelle notre veille, c'est-à-dire que chaque matin, chaque après-midi, on va consulter un certain nombre de titres et de sources pour s'informer et savoir ce qu'on va mettre dans le journal. Chez Vert, je pense qu'on est un petit peu à l'abri de ça, parce qu'on est une équipe tournée vers la production d'une information. Et en ça, on a un pouvoir, quelque part, qui est celui de proposer une information alternative. Et on sait que, par exemple, dans le phénomène d'éco-anxiété, ce qui revient beaucoup, c'est de se sentir impuissant, c'est l'inaction. Or, quand on est dans une rédaction et qu'on travaille en collectif, donc déjà, il y a l'aspect collectif qui est extrêmement important. On peut partager avec ses collègues, on peut avoir des discussions justement sur des informations qu'on a vu passer qui sont très anxiogènes, notamment quand on s'intéresse aux questions du climat. Mais on peut aussi décider justement de traiter collectivement des réponses, que ce soit par du journalisme de solution, que ce soit par de la consultation des publics. Et aussi, ce qui nous, je pense, qui nous différencie, c'est aussi ce traitement décalé. C'est-à-dire qu'on va mettre de l'humour, on va avoir un traitement avec beaucoup de jeux de mots, par exemple, dans la newsletter, qui sont aussi des remèdes à cette anxiété généralisée et qui nous permettent, je pense, de continuer à faire notre métier de journaliste sans ressentir trop cette fatigue.
Mais est-ce qu'on peut faire du journalisme de solution de masse ? Parce que on a quand même l'impression que vous êtes un jeune média, mais un média, je dirais pas de niche parce que c'est connoté négativement, mais avec une audience qui est forcément restreinte par rapport aux médias mainstream. Est-ce que on peut arriver à pratiquer ce genre de solution, mais de manière quantitative ?
Déjà, je suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce qu'en réalité, à travers les réseaux sociaux, par exemple, aujourd'hui, on va toucher des millions de personnes. Donc certes, on est un média en ligne et on n'a pas l'audience, notamment des télévisions, puisque les premières sources d'information des Français et des Françaises aujourd'hui sont toujours la télévision. Néanmoins, on a des audiences qui sont quand même pas négligeables du tout. Donc je pense qu'on est en capacité aujourd'hui collectivement de faire un journalisme de réponse de qualité. Mais par contre, effectivement, ça revient au point que vous soulignez la dernière fois, enfin tout à l'heure, à savoir que il faut y consacrer du temps, il faut y consacrer des moyens. Donc il faut aussi que ce soit une des priorités des rédactions de se tourner vers un journalisme qui prend du temps. Or, on voit que la tendance est plutôt effectivement à une information continue qui se répète. Mais j'en veux pour preuve, par exemple, il y a des chiffres du journal Le Monde qui montrent que ce journal a produit plutôt moins qu'auparavant, alors qu'ils ont plus de journalistes. Eh bien ça, je trouve que c'est une tendance intéressante. Produire moins, mais des informations de qualité, c'est aussi ce que demandent les publics.
Produire moins tout en diffusant plus, parce qu'ils produisent moins, mais ils ont développé plein d'autres services pour aller justement vers des médias, vers d'autres canaux. Donc c'est peut-être la même information, mais traitée différemment pour toucher des publics différents. Pauline Amiel, je me rappelle d'un temps où il y avait Libération qui consacrait le Libé des solutions, qui était peut-être une grande vitrine de ce journalisme-là. On vient d'entendre Juliette Kev dire que ça prend du temps, que ça coûte de l'argent, que les rédactions ne sautent pas, ne bondissent pas sur ce journalisme. Quels sont vos espoirs? On parlait tout à l'heure de reporters d'espoir. Quels sont vos espoirs, vous, par rapport à ce journalisme-là dans les mois et années qui viennent?
Moi, j'ai beaucoup d'espoir pour le journaliste de solution, mais aussi globalement pour tout type de réflexion sur la façon de faire de l'information, voilà, du journaliste qui soit plus narratif, qui soit tourné vers autre chose que vraiment cette information de flux. Et notamment parce que je suis au contact quasi quotidien des étudiants de l'école de journalisme et que je vois que c'est des jeunes qui ont vraiment envie de réfléchir sur l'information, réfléchir sur les médias, et qu'il y a beaucoup d'initiatives, comme Vers le Média en est une, qui sont très regardés, qui ont une grosse audience, qui plaisent beaucoup et qui montrent que voilà, les publics ont envie aussi d'autres façons de traiter l'information. Et que finalement, ce flux permanent d'informations qui se répètent, c'est pas inéluctable, et qu'il y a d'autres pays d'ailleurs qui ne fonctionnent pas du tout comme ça. Le système médiatique ne fonctionne pas comme ça.
D'ailleurs, il y a des distinctions du journalisme de solution par rapport aux autres pays. On sait que, je crois qu'en France, il est principalement tourné vers les questions écologiques et environnementales. Est-ce que dans d'autres pays, le journalisme de solution embrasse aussi les pratiques culturelles?
Oui, complètement. Moi, c'est un peu mon intuition que le journaliste de solution, il est souvent fait par des journalistes qui n'arrivent pas à être en tout cas certains de bien traiter un sujet. Et je crois qu'en France, il y a beaucoup de journalistes qui se posent la question de comment parler de climat dans les médias et de réchauffement climatique, et ne sont pas forcément satisfaits de la façon dont ils traitent ces sujets-là. Et donc, il y a pas mal de journalistes de solution portés sur ces questions. Aux États-Unis, par exemple, ça a été pendant longtemps les sujets en lien avec l'éducation qui étaient particulièrement traités par le journaliste de solution. Mais il y a d'autres pays où ça va être la santé, où ça va être aussi la réconciliation au Rwanda. Il y a plusieurs études qui ont été faites sur le journaliste de solution au Rwanda et qui est vraiment un journaliste dit de paix et de réconciliation. Donc vraiment, c'est ancré culturellement.
Voilà, un journalisme de solution miroir aussi des failles et des angles morts des paysages médiatiques à l'international. Ingrid Tarouet.
Oui, en Inde, par exemple, le journalisme de solution, entre guillemets, porte beaucoup sur les questions des droits des femmes et du statut des femmes. Et il y a une dimension genrée dans ce journalisme de solution. On en parlait un petit peu avant l'émission. Beaucoup de personnes qui écrivent des articles sur le lien social, l'amitié, etc., sont des femmes. Et on retrouve cette dimension très genrée de care dans ce journalisme, dans cette écriture, dans cette approche du monde. Et il y a peut-être quelque chose à interroger là. Pourquoi ces solutions et ce regard nous vient des femmes, et presque, pas exclusivement, mais très majoritairement des femmes. C'est peut-être aussi un problème qu'il faut se poser quand on parle du journalisme.
En tant que femme, Juliette Kev, vous avez une réaction par rapport à ce qui vient d'être dit par Ingrid?
Non, je pense que ma dernière réaction, c'est vraiment de dire que la peur n'entraîne pas l'action. Et je pense que aussi, dans un contexte d'urgence climatique et sociale absolue tel qu'on l'est actuellement, en fait, il faut vraiment qu'on prenne notre rôle de journaliste à bras-le-corps. Il faut que cette responsabilité qui nous incombe arrive aussi dans le réel, et se dire qu'il faut donner envie d'agir à travers une diversité de mobilisation, et que ça n'est pas du feel-good, mais qu'au contraire, c'est rassurer, inciter à un changement profond. C'est ça qu'on a envie de faire aujourd'hui.
Et voilà, agir, c'est un risque. Agir, c'est une audace. C'est pas un simple confort. Et ça sera le dernier mot. Merci à tous les quatre de m'avoir accompagné pour cette émission. Juliette Kev, je le rappelle, vous êtes journaliste et directrice de Vert, un média indépendant que l'on conseille ici dans la fabrique de l'information. Merci. Allez le suivre et allez rire aussi avec Gaëtan Gabriel. Paulina Miel depuis les studios d'ICI Provence. Remercie d'ailleurs la technique là-bas. Vous êtes directrice de l'école de journalisme et de communication de l'université Aix-Marseille. Votre ouvrage, Le journalisme de solution, est à mettre entre toutes les mains, comme les papiers de David Medioni et ce rapport sur l'exode informationnel publié au sein de l'Observatoire des médias de la Fondation Jean Jaurès. Ingrid Terwatt, on a cité Coin International une bonne dizaine de fois, mais on le fait une 11e fois. Très les bien. Liens qui nous font du bien et face à la Russie, faut-il riposter? En voilà un titre, allez, presque de solution, on va dire, du moins de question. À la préparation de cette émission, je remercie comme chaque semaine Joséphine Reinhardt à la réalisation aujourd'hui, Sorge Leroy à la technique, Noé Chaban et à la vidéo, Jade Dantier.